Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard, donc n'hésitez pas à le contacter pour poser vos questions, donner vos messages que nous proposerons à notre invité. Vous pouvez le faire par téléphone, donc 01 46 51 00 85. 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr courtoisie@rc.fr. Dans cette deuxième partie d'émission, chers auditeurs, nous poursuivons cette découverte de l'histoire de France, de l'histoire de notre pays à travers justement les lieux qui l'ont faite. Hors des sentiers battus, et cette fois-ci en allant en Vendée. Bonaparte a qualifié les Vendéens, ceux qui se sont battus contre l'armée républicaine, de géants. Leur révolte, la guerre qu'ils ont menée contre les meilleurs soldats de la République, ceux de l'armée de Mayence, eh bien, c'est impressionnant en effet de courage et d'esprit de sacrifices. Il reste peu de souvenirs matériels de cette épopée. En effet, les destructions proposées par cette terrible guerre, souvent comme les guerres civiles, ce sont les plus abominables, les plus affreuses, où se produisent les plus épouvantables cruautés. Et on pense bien sûr à celle des colonnes infernales qui ne laissèrent que ruines de cette Vendée militaire. Comment alors, où retrouver ces souvenirs, François-Guillaume Laurin, pardon, dans la première partie d'émission, nous a expliqué tout l'intérêt qu'il attachait à la découverte, effectivement, des traces et des souvenirs de l'histoire. C'était tout l'objet, en effet, de ce premier livre consacré aux lieux qui ont fait la France. Eh bien, si on applique ça à la Vendée, comment faire justement pour retrouver des souvenirs matériels de cette épopée vendéenne? Eh bien, c'est justement ce que nous propose un guide plus particulièrement intéressant à plusieurs titres d'ailleurs. C'est un guide qui résume parfaitement d'une part cette guerre et qui propose en deuxième partie, après avoir exposé en effet les étapes de cette guerre de Vendée, et qui propose en deuxième partie quatre itinéraires à travers la Vendée militaire, quatre itinéraires qui sont centrés autour de quatre grandes personnalités de cette histoire. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls qui ont marqué les guerres de Vendée, il y en a eu d'autres, mais en tout cas, ce guide propose quatre itinéraires centrés autour de Bonchamp, de Charette, de La Roche-Jacquelin et de Catelineau, que l'auteur nous propose de retrouver justement à travers un certain nombre de témoignages concrets et historiques qui jalonnent en effet leur épopée particulière. Alors, ce guide, c'est tout simplement La guerre de Vendée, dans la collection des guides Historia Talendier, qui est écrit par Reynald Séché, que nous avons le plaisir ce soir, chers auditeurs, de recevoir à cette antenne pour qu'il nous parle effectivement, qu'il nous présente ce guide. Alors, nous procéderons en deux parties. La première partie, comme il le fait dans ce livre, c'est de résumer effectivement les étapes, les raisons, les étapes principales de cette guerre, et puis les causes, bien sûr, de la défaite militaire, mais qui ne sera pas, nous le verrons, avec lui, une défaite politique, puisque sous Bonaparte, effectivement, les Vendéens atteindront les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre. En prenant les armes. Nous ferons donc une première partie de discussion autour de l'épopée vendéenne, et puis deuxième partie de discussion avec Reynald Séché. Eh bien, il évoquera ses itinéraires, en choisissant quelques exemples, hein, afin, bien entendu, de nous encourager tous à lire ce livre. Et c'est vrai que, comme le disait François-Guillaume Laurin, eh bien, l'histoire incarnée, c'est formidable, et c'est passionnant d'aller sur place, là où s'est passée cette histoire, en essayant effectivement de redécouvrir. Alors les paysages, ça sera difficile. Je pense qu'Ornel nous a expliqué que le bocage vendéen n'est plus tout à fait le même. Mais en tout cas, grâce à lui, on peut retrouver un certain nombre de châteaux, de ruines, d'églises, de magnifiques vitraux qui témoignent de cette épopée. Reynald de Séché, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer ce guide que vous nous proposez, La guerre de Vendée, dans la collection des guides Historia Talendier, à la fois résumé de la guerre de Vendée et puis donc proposition d'itinéraire pour visiter ces lieux qui ont fait donc la Vendée militaire. Alors les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent bien, hein, forcément, vous venez souvent à cette antenne, et puis vous êtes le premier, effectivement, à vous être saisi de ces guerres de Vendée en évoquant ce génocide, ce fameux génocide vendéen. C'est qui vous a valu beaucoup d'attaques, mais c'est qui nous a valu en tout cas des ouvrages passionnants que vous avez écrits. Je rappelle bien sûr le génocide franco-français, la Vendée vengée, que vous avez fait publier en 1986, que vous avez publié en 86, pardon, aux presses universitaires de France. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, hein, des livres, des biographies, des guides, le guide dont nous parlons d'ailleurs. Vous avez aussi, vous êtes très prolixe, vous avez écrit des bandes dessinées, vous avez réalisé des scénarios de films sur, bien sûr, sur le thème de la guerre de Vendée, mais pas que. Hein, vous avez abordé d'autres thèmes, et d'ailleurs, j'ai noté, ça a attiré mon attention, parce que je trouve que c'est une histoire intéressante. Vous avez aussi écrit sur l'histoire de résistance en Bretagne. Alors, est-ce que c'est la résistance bretonne lors de la Révolution, ou c'est la résistance bretonne face aux Allemands entre 40 et 44? On se rend compte d'ailleurs que la chouannerie bretonne se superpose avec les maquis bretons contre les Allemands. C'est incroyable, hein. Ce sont à peu près, ça se superpose géographiquement. Alors, l'histoire de résistance en Bretagne, c'est la résistance aux Allemands ou c'est la résistance à la Révolution? Ou les
Alors,
deux,
c'est
peut-être?
La résistance durant la Seconde Guerre mondiale.
Ah, c'est bien ça.
Absolument. Et vous avez raison de préciser les choses. L'Ouest, notamment la partie chouanne vendéenne et notamment la Vendée militaire, ont été de très grands protecteurs des Juifs qui étaient persécutés à la fois par l'Allemagne nationale socialiste et Vichy. Et partout dans les zones occupées, notamment tout le marais vendéen et le vignoble et le bocage, il y a eu des endroits, des lieux qui ont protégé les Juifs. À titre d'exemple, ma grand-mère, qui était femme de médecin, et mon grand-père, durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la propriété familiale était occupée par la Kommandantur, avaient chez eux un juif qu'ils ont protégé durant toute la guerre. Donc, la Vendée s'est souvenue de son martyr, et au nom de ce souvenir, eh bien, elle a soutenu, secouru les Juifs. J'ai raconté l'histoire de mes grands-parents qui allaient collecter les billets que les Juifs lançaient entre les interstices des planches des wagons qui emmenaient les Juifs en Allemagne. Et dessus, il y avait les adresses et ils les respédiaient à leur famille. Tout un travail, pour essayer de sauver un maximum de Juifs.
Si vous me permettez une petite anecdote un peu personnelle, il y a dans les Côtes d'Armor Pas très loin de Guingamp, un petit village breton qui s'appelle Saint-Connan,
Ah
qui est tout
oui.
petit. Eh bien, à Saint-Connan, il y a bien sûr un gros maquis. Hein, il y a un certain nombre de monuments dans la région. Général de Gaulle, d'ailleurs, s'est rendu, je crois, à Saint-Connan même, après la guerre. Et c'est un endroit aussi de chouannerie. Oui, voilà, encore un exemple, en effet.
En fait, les Bretons comme les Vendéens, les chouans ont appris à dire non. Et au-delà du non, qui est un engagement, hein, je dis non, eh bien, on prend les moyens d'assumer ce non. En fait, toutes ces terres ont été des terres de résistance au totalitarisme, quelle que soit la forme que prend ce totalitarisme. D'ailleurs, je rappelle toujours que le totalitarisme révolutionnaire est de même nature que le totalitarisme communiste ou le communautarisme national-socialiste. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on interdit à l'autre d'être, on interdit à l'autre de penser autrement que ce que l'on veut qu'il pense. Mais vous savez, on vit dans des sociétés de nature totalitaire et à Radio Courtoisie, vous le savez parfaitement bien.
Eh bien, le malheureux exemple, ce drame qui touche le jeune Quentin, assassiné et lynché, il y a seulement quelques jours, en est encore un exemple, hein, justement. Malheureux, un exemple très, très
C'est,
malheureux.
ça fait partie d'un ensemble, d'un système.
Alors, dans votre présentation aussi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intrigué, Renel Séché, c'est que vous êtes chevalier du mérite de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges. Alors, vous avez de nombreux titres, vous êtes docteur, vous avez une carrière brillante, bien sûr, à la fois comme écrivain, historien, vous avez enseigné, mais j'ai vu cette chose particulière, chevalier du mérite de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce
Alors,
que c'est donc?
c'est un ordre qui remonte au 5e siècle, hein, qui est toujours vivant, et les responsables de cet ordre ont considéré que je méritais comment dire, d'entrer dans l'ordre, ce que j'ai accepté volontiers. Cet ordre, entre autres, hein, a pour mission d'aider l'autre pour ce qu'il est, justement. C'est un ordre de résistance, de transmission, de maillon, etc. Et c'est pour ça que j'ai accepté ça volontiers. Et chaque année, on aide un certain nombre de structures variées et diverses pour cela.
Alors je vous propose, si vous le voulez bien, d'essayer de revenir à ce guide, à cet ouvrage, La guerre de Vendée, que vous avez publié il y a quelques années dans la collection Guide Historia Talandier. J'imagine que elle a été rééditée depuis.
Alors non, parce que en fait cette collection a disparu, hein, tout simplement, mais comme ils en avaient tiré un certain nombre de numéros, il est toujours disponible dans la maison d'édition Rénal Séchère Édition. On peut se le procurer encore. Je ne vous cache pas que je vais le rééditer dans 2 ans. En l'actualisant, parce que, bien entendu, ce guide correspondait à une époque et les choses ont beaucoup évolué. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce guide? Parce que la perception que les gens avaient à l'époque, en 1989, des guerres de Vendée a été totalement bouleversée par mes travaux et qu'au-delà de la guerre civile dont vous avez parlé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre que j'ai appelé génocide, que d'autres en leur temps ont appelé populicide, permettait une lecture différente de l'espace et notamment permettait de mieux comprendre ce que les Vendéens, ici et là, avait construit et avait voulu exprimer. Je prends un exemple précis. Quand vous allez, par exemple, au Mont-Glône, c'est dans l'itinéraire Beauchamp, le Mont-Glône, c'est Saint-Florent-le-Vieil. Traditionnellement, tout le monde allait voir l'abbatiale où avaient été concentrés les Bleus prisonniers le 17, 18 et 19 octobre 1993. Puis on descendait comment dire, 200 ou 300 mètres plus bas, au Marilet. Et puis là, il y avait un enclos où on précisait qu'il y avait eu 2000 Vendéens de massacrés pendant plusieurs mois. Puis après, un peu plus loin, on allait voir une basilique à l'intérieur de laquelle il y avait un vitrail qui relatait cet épisode. Mais en fait, lorsque le touriste allait là-bas, il allait sur chaque lieu indépendamment. Et moi, j'ai expliqué à travers la reconstitution de l'histoire que cela formait un tout cohérent. Alors, je raconte l'histoire parce qu'elle est déterminante à la fois pour l'histoire de la Vendée, pour l'histoire du génocide, pour l'histoire du mémoricide, et elle est aussi déterminante pour la compréhension des lieux. Parce que lorsque les Vendéens héritiers ont fabriqué les lieux, ils les ont traités isolément sans eux-mêmes avoir conscience de la globalité des événements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le 17, 18 et 19 octobre 1793, les Vendéens traversent la Loire pour échapper à l'enfer et qu'ils ont fait 5000 bleus prisonniers. Conformément à la loi de la guerre, ces bleus doivent être exécutés sans aucun jugement. C'est la loi de la guerre du 18e. Donc, c'est ce qu'on commence à vouloir faire. Le général en chef, Beauchamp, est mortellement blessé. Il est rentré en agonie, mais il a encore sa conscience. Et il prend conscience que si il laisse massacrer les 5000 bleus, lorsqu'il va paraître devant le Christ pour être jugé, il devra répondre du crime qu'il a commis, du crime qu'il a laissé commettre, et puis bien entendu de sa complicité. Alors il va demander à ses soldats deux choses. Un, vous graciez les prisonniers, et deuxièmement, vous les libérez. Et c'est ce que ont fait les Vendéens. Lorsque les Vendéens traversent la Loire, ils laissent sur la rive les 5000 bleus prisonniers. Arrive Westermann, qui est le commandant en chef des armées républicaines, qui lui est stupéfait de voir 5000 bleus libres, parce que lui, il applique rigoureusement les lois de la guerre. Et il essaye de comprendre. Et les républicains libérés, ben, rendent grâce à leur libérateur. Sauf que lui, il est dans le premier plan d'extermination. L'ordre est simple, il doit tuer tout le monde, et de préférence les femmes s'y reproducteurs et les enfants. Il ne sait pas que faire. Donc il va envoyer un courrier sur Paris. Le courrier met 3 jours à l'aller, 3 jours pour le retour. Et on lui dit, ça nous pose un problème. Parce que ça remet en question notre stratégie d'extermination globale. Alors, on va faire deux choses. Un, on ne va pas dire la vérité aux gens, c'est-à-dire qu'on va dire que les Bleus se sont auto-libérés, que les Vendéens sont des crapules, et en même temps, on va massacrer tous les témoins oculaires de la chose. Et les soldats républicains ont agi en conséquence, c'est-à-dire qu'ils ont fait prisonnier tous les Vendéens qu'ils rencontraient localement, ils ont pourchassé ceux qui les ont libérés et les ont emmenés dans un camp de concentration qui est au Marilhet à l'heure actuelle. Et en fait, au bas du Mont Glaune, et c'est le deuxième élément de l'itinéraire, vous avez ce plan de concentration et d'extermination. Et à l'intérieur de la basilique, lorsqu'on a fait le vitrail au XIXe siècle qui relate les événements, le témoin qui est à l'origine de ce vitrail a mis sur ce vitrail, comment dire, avec précision, tous les éléments pour expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des traîtres qui ont indiqué aux Bleus les gens à arrêter, les gens à emmener dans le camp de concentration et d'extermination. Et en fait, c'est pour ça que c'est important cet itinéraire, j'emmène les gens pour aborder globalement 3 sites qui apparemment sont distincts, mais qui forment un tout. Et c'est la naissance de ce que j'appelle le mémoricide.
Nous allons évoquer effectivement ce qui vous a donné l'idée de faire ce guide avec ce choix particulier d'itinéraire et à qui vous le dessinez. Mais j'ai une question à vous poser puisque vous l'évoquez maintenant. Je voulais le faire un petit peu plus tard dans le cadre du résumé des guerres de Vendée que vous allez nous faire, bien sûr, puisque ça correspond à la première partie de votre guide. C'est particulièrement intéressant parce que ça nous permet en quelques pages d'avoir une vision globale. De cette guerre de Vendée qui dure plusieurs mois et qui se prolonge par la suite avec l'horreur des colonnes infernales. Mais je souhaitais vous poser la question sur justement la grâce que Bonchamp accorde aux prisonniers bleus. Une personne que vous connaissez bien, qui s'appelle Jacques Villemain, qui a écrit aussi plusieurs ouvrages concernant les guerres de Vendée, pour savoir est-ce qu'il s'agissait, au regard du droit international contemporain, est-ce qu'il s'agissait de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide? Et il conclut comme vous, quelques années après quand même, mais il conclut comme vous qu'au regard du droit international, eh bien en effet, et il s'agit là d'un génocide. Mais il aborde bien sûr dans ses livres, outre cette question, l'histoire proprement dite de cette guerre. Et lui, une thèse un peu différente de la vôtre, dans le sens où il explique que ça a été une erreur. C'était une erreur de ne pas appliquer les lois de la guerre. Il estime que le comportement effectivement des chefs vendéens était très noble, celui de Bonchamp, et puis il y a eu aussi d'autres chefs vendéens, Elbé, hein, naturellement, je crois, qui pareillement gracie les prisonniers bleus. Lui dit, mais ça a été une erreur parce que ils n'ont pas été suffisamment craints à cause de cela, et que ils auraient dû être fusillés et que ça aurait peut-être changé justement l'issue de cette guerre. Je ne sais pas si vous en avez discuté avec lui.
Bien sûr, Jacques est un très très bon ami. D'ailleurs, il a fait un travail remarquable, juridique. Hein. Oui. C'est un jury, je rappelle toujours, qu'il a été délégué auprès des tribunaux internationaux pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. J'ai rencontré par hasard Jacques au cours d'une excursion en Vendée et à la suite de l'échange que j'ai eu avec lui, ça l'a intéressé et il a travaillé ce dossier sous l'angle exclusivement juridique. Alors, je suis moi d'accord avec lui, parce que les Vendéens ont commis une erreur, mais il faut la comprendre, cette erreur. Oui. En fait, lors de la bataille de Fontenay, quelques mois précédemment, où il y a un certain nombre de généraux vendéens, il y a un certain nombre de prisonniers bleus. Les chefs vendéens ne savent pas à l'époque ce qu'ils vont en faire. Ils connaissent, parce que ce sont des militaires de carrière, ils connaissent les lois de la guerre. Mais en même temps, ils sont catholiques. Et tuer quelqu'un, c'est un crime pour eux. Et en même temps, il y a une deuxième raison, c'est que comme la République a décidé de créer un cercle infernal, je te tue, donc tu n'as pas d'autre choix que de me tuer, et après, c'est l'engrenage, ils disent, en conscience partagée, nous ne voulons pas rentrer dans cette logique. Nous ne voulons pas être ce que les républicains veulent que l'on soit. On refuse cela. Ça, c'est lors de la bataille de Fontenay. Et ils écrivent une lettre qu'un de nos amis a, qui est remarquable, et qui dit tout simplement cela. On refuse d'être ce que vous voulez qu'on soit, en fait, des criminels et d'entrer dans une logique mortifère. Quelques mois plus tard, bien entendu, au Mont-Glône, à Saint-Florent, Bonchamp se pose exactement la même question. Et seul, il va prendre la même décision, parce qu'il conclut pareillement, je ne veux pas être ce que les autres veulent que je sois. Et donc il dit non, et il dit deux fois non. non en tant que catholique, non en tant qu'homme d'armée, en tant que soldat. Jacques a raison lorsqu'il dit que c'est une erreur. C'est une erreur à double titre. La première erreur, c'est que si les Vendéens avaient appliqué cette loi de la guerre, eh bien, les Bleus auraient davantage craint l'armée vendéenne. Et puis, deuxièmement, c'est que les soldats libérés vont se retourner contre les Vendéens et on va leur demander de massacrer encore davantage pour réparer le crime infime qu'ils avaient commis d'avoir accepté la grâce de fils d'esclaves. Et donc, ils ont été encore plus terribles que le soldat ordinaire.
Et il semblerait que tous les chefs vendéens n'aient pas appliqué effectivement cette générosité. Charette a été plus dur, non?
Alors, il a été un peu plus dur plus tard.
Plus tard, pas
Hein.
tout de suite, oui.
Il y a eu cette fameuse
Oui.
affaire de Machecoul que les Vendéens républicains ont maquillé parce qu'on a parlé d'un massacre gratuit à Machecoul. Non, ce n'est pas du tout cela. C'est-à-dire que les Bleus avaient massacré dans des conditions épouvantables les Vendéens à Pornic. Et les Vendéens, à Machecoul, ont appliqué tout simplement la loi de la guerre. D'ailleurs, pas dans le nombre qui a été avancé, puisque même à l'heure actuelle, les républicains les plus anti-vendéens disent qu'il y a eu quelques dizaines de gens massacrés simplement.
Nous avons un auditeur qui vous remercie pour vos propos, qui estime très intéressant et qui nous dit Beauchamp aurait dû, Bonchamp, pardon, le général Bonchamp aurait dû pratiquer la méthode romaine de la décimation, 1 sur 10. C'est ça le sens de la décimation, hein, c'est qu'on
Bien sûr.
on exécute un soldat sur 10. Hein.
Absolument.
Est-ce que cela aurait changé le cours de la guerre? Bon.
Je pense que oui.
Vous pensez que
Je
oui?
pense que la théorie de Jacques est
Et
juste
oui.
parce que les Vendéens ont fait tellement de prisonniers, mais des dizaines de milliers. Et s'ils les avaient éliminés, on ne les aurait pas retrouvés sur le champ de bataille contre eux. Je pense que rien que pour cette raison, ça a été une erreur.
Alors on peut rappeler d'ailleurs que le droit de la guerre de l'époque, c'est de dire que si l'adversaire fusille vos prisonniers, eh bien vous avez le droit d'en faire autant de votre côté. Hein. C'était
Bien
ça.
sûr.
C'est ça
Bien sûr.
la règle. Hein. Et effectivement, là, en la matière, les armées républicaines avaient montré l'exemple. Je propose que nous en revenions, René Lesséché, si vous voulez bien, à votre guide, la guerre de Vendée.
Alors, si
Donc,
je peux me permettre, monsieur,
oui, je vous en prie.
prononcez bien mon nom, Reynald Secher, je
Oh,
suis
à chaque fois, je me trompe. Veuillez m'en excuser.
Ah, je vous en
Il me
prie.
reste, il me reste encore 1 heure pour me rattraper et me faire pardonner. Je vous propose donc de revenir à ce guide dont nous apprenons avec plaisir que vous allez le réactualiser. Hein, d'ici à peu près 2 ans, on attend ça avec impatience parce que c'est vrai que aller voir l'histoire sur place, comme le précisait François-Guillaume Laurens, c'est vraiment passionnant.
Oui, surtout qu'il reste plein de traces,
Oui.
à la fois des traces d'époque, parce que les Vendéens, ben, comme à Oradour, en fait, hein, ont laissé les choses en l'état. Or, ce sont principalement des lieux religieux, des châteaux, comme l'étang de Werd, dont vous m'avez parlé à travers une question qui a été
Oui.
incendiée par Grignon le 31 janvier 1994, mais il y a d'autres châteaux comme ça qui ont été laissés en ruine. On peut parler du Puy du Fou,
Oui.
par exemple, et Philippe de Villiers a opté pour le laisser en l'état, pour laisser une trace. Et puis la deuxième chose, les Vendéens, à la fois pour honorer et lutter, excusez-moi l'anachronisme du mot, ils n'en avaient pas conscience, le mémoricide, ont décidé d'ériger ici et là un certain nombre de monuments sous des formes diverses. Ça peut être des croix, des vitraux, des monuments autres, etc., pour le souvenir et pour honorer. Et en fait, tout le pays est irrigué comme ça de monuments qui prennent des expressions différentes, y compris par exemple des statues qui rendent hommage par exemple au premier généralissime qui est né au pain en Mauges, Catelineau, hein, si vous allez dans son village natal, qui est un lieu extraordinaire à visiter, donc le pain en Mauges. Vous avez à la fois une église où vous avez une statuaire très intéressante qui date du 19e siècle en marbre et en pierre blanche, les vitraux qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé localement. Et six vitraux sont consacrés au chef vendéen. Et à l'extérieur, vous avez une statue qui a été inaugurée en 1993. Donc voilà un lieu où il y a une concentration de monuments de la mémoire. Et à travers la Vendée, comme ça, vous avez un certain nombre de monuments. Et chaque monument est illustré par un commentaire extrêmement précis qu'il faut aller collecter, soit sur le lieu même, soit à la mairie ou à la cure.
Et comment avez-vous constitué ce guide Redel Secher? Vous êtes-vous déplacé sur place? Vous avez rencontré les gens? Il y a une mémoire locale sans doute qui est très forte. Quelle était votre méthode? Et puis comment êtes-vous arrivé à quatre itinéraires?
Alors, en fait, c'est lié à ma recherche scientifique sur la Vendée. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis un universitaire. Je suis de Paris 4, Sorbonne. Et en fait, en travaillant avec Jean Meyer et Pierre Chenu, pour les deux noms les plus connus, ils ne voulaient que je ne travaille qu'à partir de ce qu'on appelle en histoire la matière première, c'est-à-dire le document, l'objet. Et en l'occurrence, je vais découvrir que la mémoire vendéenne était encore relativement intacte, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une mémoire recréée. Bien. Et donc, j'ai été amené à l'époque, en tant qu'étudiant, à errer à travers la Vendée militaire et j'avais repéré comme ça un certain nombre de lieux forts. Alors, forts en tant qu'histoire, mais aussi forts en tant que monuments. Et j'avais rédigé à l'époque un manuscrit sur lequel j'avais tout noté. Et en fait, lorsque les éditions Talendier m'ont demandé de faire cet itinéraire, j'ai repris ce cahier et je me suis déplacé et j'ai fait les lieux un par un. D'ailleurs, c'était obligatoire dans la mesure où il fallait faire des trajets. Vous l'avez cité tout à l'heure, quatre trajets, il fallait les minuter. Donc, j'étais obligé d'aller sur place pour faire des photos, pour minuter et pour être très précis dans les éléments que les gens allaient découvrir. Donc, je me suis déplacé sur place et pour vous dire la vérité, ça a été mon voyage de noces. C'est-à-dire que lorsque je me suis marié, j'ai proposé à ma femme, plutôt que de partir dans des lieux exotiques ou plus proches, eh bien, de faire l'itinéraire des guerres de Vendée. En fait, c'est mon voyage de noces.
Alors, j'imagine que vous avez rencontré sur place des personnes, elles vous ont appris des événements que vous ignoriez, elles vous ont montré des restes, des traces justement que vous ne connaissiez pas. Comment ça s'est passé localement? Il y avait une mémoire dont vous n'aviez pas forcément connaissance?
Alors, j'ai écrit un livre là-dessus, du génocide au mémoricide. Quand Jean Meyer me demande de travailler sur la Vendée, nous sommes en 1980. Jean Meyer est un agrégé d'histoire, un moderniste, et il sait très bien la différence qu'il y a entre l'écriture de l'histoire par la gauche et l'écriture de l'histoire par la droite, grosso modo. La gauche a une théorie et elle va prendre dans la documentation les documents qui illustre sa théorie. La droite, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est le document, la compilation du document, qui permet de créer une théorie. Bien. Et Jean Meyer et Pierre Chenu étaient partisans, bien entendu, de la deuxième solution. Et lorsque Jean Meyer me demande de faire ce travail à l'université, je rappelle que c'est le premier travail universitaire, et d'ailleurs le seul, à ma connaissance de nos jours, qui va travailler sur la nature de la guerre civile. Et donc, lorsque Jean Meyer me demande de travailler sur cette question, moi, je collecte les documents. Vous avez deux types de documents. Vous avez le document public et le document privé. Le document public, vous le trouvez au sein de la mairie, au sein du département, au sein de la Bibliothèque nationale, au sein des archives de l'armée, etc. Bien. Le document privé, il est de nature religieuse, donc vous le trouvez au sein de la cure, au sein de l'évêché ou au sein des archives du Vatican. Puis vous avez le document privé profane que vous trouvez chez les particuliers. Donc moi, quand je commence mon enquête, mon premier travail, c'est le collectage, aussi bien dans la documentation publique que la documentation privée. Le travail, il est colossal. Et c'est pour ça que la méthodologie retenue par Jean Meyer est d'abord de faire un carottage, en l'occurrence au sein de mon village natal, La Chapelle-Basse-Mer, et de voir tout ce que l'on peut trouver comme documentation liée à cette période. Ce choix était génial de la part du professeur Meyer. Pourquoi ? Parce que moi, je suis natif de ce village où ma famille a eu pendant des centaines d'années des fonctions clés comme procureur du roi, notaire, avocat, médecin. Et lorsque je commence ce travail au sein de la Chapelle Basse-Mer en 1978, 79 et 80, la plupart des anciens ont été mis au monde par mon grand-père qui était médecin. Tant et si bien que lorsque j'arrive chez eux, on ne va pas se méfier. On va me dire, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? Ce sont des archives. Et donc, on va m'ouvrir l'armoire en me disant, prends ce que tu veux. Si j'avais été un étranger, on n'aurait pas du tout accepté ça. On n'aurait même rien donné. Et la deuxième chose, comme je suis natif du pays, donc je suis un des leurs, ils me racontent l'histoire. Et je découvre que ce que n'avait pas vu Jean Meyer, qui est un moderniste, la mémoire liée aux événements, elle est non seulement vivante, mais elle est intacte. Je répète, nous sommes en 1980. À l'époque, il n'y a pas le chauffage central au sein des maisons. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas l'ordinateur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que, en fait... Et puis, il n'y a pas les EHPAD, etc. En fait, les gens vivent groupés dans des maisons et comme il fait très froid l'hiver, c'est des pays à la fois froids et humides, ils se retrouvent autour de la gazinière. Et il y a l'arrière-grand-père et l'arrière-petit-fils. Et tout le monde parle, échange, etc. Et comme ce sont des pays où on vit vieux, moi, je vois, j'ai été élevé par ma grand-mère qui a vécu jusqu'à 94 ans, mon arrière-grand-père qui a été centenaire, mon arrière-grand-mère qui a été centenaire, etc. En fait, on se retrouve en proximité avec la Révolution française. C'est-à-dire que moi, j'ai connu parfaitement ma grand-mère qui est décédée en 2001. Ça veut dire qu'elle était née en 1917, elle a 13 ans, elle a très bien connu sa grand-mère qui, elle, était née en 1840, qui elle-même a très bien connu sa grand-mère qui était née en 1780. Vous voyez, j'invente les dates. Bon. Et en fait, on n'est qu'à trois générations de la fameuse guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se parle, on échange. Et en fait, je suis en contact direct avec, justement, cette mémoire. De nos jours, tout a disparu. C'est-à-dire que, malheureusement, l'unité familiale a explosé. On a mis les anciens à l'EHPAD. Demain, on va les euthanasier. Et c'est dramatique, l'euthanasie, hein, parce que ça va au-delà du meurtre. Cela va couper, c'est une guillotine sèche fondamentalement, ça va couper la mémoire. Et puis le noyau familial a éclaté et chacun se retrouve dans sa chambre avec son chauffage central, son ordinateur, son téléphone. Donc il n'y a plus de communion. Alors moi j'ai la chance, eh bien, d'avoir pu faire des milliers d'heures d'interviews que j'ai conservées d'ailleurs. J'espère qu'un jour ça sera numérisé et déposé au sein des archives, parce que c'est extraordinaire. C'est là, c'est vraiment un travail ethnologique fondamentalement. On est en contact direct avec les gens. Alors une fois qu'on a créé cette méthode, eh bien j'erre à travers la Vendée, parce que ce que vous n'avez pas dit en introduction, moi je suis natif par ma grand-mère du pays maraîchin, c'est-à-dire un pays très particulier en Vendée militaire, c'est Challans et toute sa région. Mais je suis lié aussi au bocage, au Luc-sur-Boulogne, au vignoble, puisque ma famille du côté de mon père est du vignoble. Ça veut dire que sur les quatre entités qui composent la Vendée militaire, je suis issu de trois entités. Donc je connais tout le monde, j'ai des cousins partout, etc. Et donc quand j'erre à travers le pays, quand je fais mon enquête, eh bien on me raconte, je reconstitue, et puis là je découvre les lieux cachés. Je vous prends un exemple. Au sein de mon village natal, je vais voir un vieux paysan, Monsieur Peigné, et qui est l'arrière-petit cousin du recteur clandestin de la chapelle Basse-Mère, Pierre-Marie Robin. Vous savez, c'est très concret tout ça, hein, au-delà des générations. Moi, j'ai vécu avec les gens de la fin du XVIIIe siècle. Et je lui demande si son arrière-grand-oncle a laissé des traces dans la ferme. Et là, je vois les yeux qui se mouillent et il me dit oui. Et je vais te la faire voir, cette trace, que nous respectons religieusement. Et en fait, le curé, le recteur, nous sommes en Bretagne, hein, était pourchassé. Et donc, il disait sa messe dans les fermes. Et pour pouvoir dire sa messe, il lui fallait un autel. Et un autel, c'était un meuble, une commode du XVIIIe siècle, Louis XV. Et il la posait devant un mur et il avait creusé dans le mur un tabernacle. Et le tabernacle avait été brûlé le 17 mars 1794. Vous voyez, je peux vous dire même la minute, parce que la mémoire populaire se souvenait de cela. Et le tabernacle, c'est à la fois un trou, mais une parure en bois. Et la parure en bois avait été brûlée, et le tabernacle était toujours là. Il m'a expliqué comment, lorsque les Bleus venaient, on le cachait, ce tabernacle. C'est-à-dire qu'il était derrière des barriques, et pour dire la messe, on retirait les barriques. 30 ans plus tard, il vient vers moi en disant, le tabernacle va disparaître, parce que le mur est en train de s'effondrer. Sauve-le. Et moi qui fais beaucoup d'archéologie anglo-saxonne, eh bien j'ai sauvé le tabernacle que je déposais dans une crypte dans le mémorial qu'on a construit à la chapelle Basse-Mère. C'est un objet exceptionnel, unique, qui exprime parfaitement ce que les gens ont vécu. Mais des histoires comme ça, je peux vous en raconter des centaines, je vais vous en raconter une autre. Dans le même village, il y a un écrit qui me dit que le petit-neveu du recteur Pierre-Marie Robin a reçu ce qu'on appelle un fusil d'honneur par Louis XVIII. Je vais voir l'héritier de cette famille qui me dit que malheureusement, ce fusil a été vendu. Eh bien, je vais le retrouver tout à fait par hasard en 2007, chez un antiquaire à Nantes, un spécialiste, et je vais le racheter et je vais le rapporter au sein du village de la chapelle Basse-Mère. J'ai découvert, par exemple, à Marseille, les registres clandestins de deux paroisses du canton de la chapelle Basse-Mère, que la Romaudière et la Boissière, que j'ai acheté, j'ai remis dans le musée que j'ai à Quiberon. J'ai d'autres objets extraordinaires, par exemple, la première lettre rédigée par Carrier pour raconter les noyades, les premières noyades de prêtres en novembre 93, on écrit toujours en double exemplaire. Un pour les archives, en fait pour les politiques et qui vont être versés aux archives, et puis un autre pour l'armée. En fait, c'est le document pour l'armée qui a été vendu et que j'ai racheté à Lyon et qui fait partie des archives. Ça veut dire qu'on trouve des tas de choses comme ça, extraordinaires, et en fait, l'itinéraire que j'ai fait permet entre autres d'accéder à ces éléments de l'histoire. C'est en fait pas seulement un itinéraire lié au monument, à un lieu, au chemin creux, etc. Ça permet aussi d'accéder à l'objet, à la mémoire autre que celle des monuments.
Mais René Secher, ces histoires sont particulièrement émouvantes. Est-ce que ce sont justement elles et ces contacts amicaux et familiaux qui vous ont jeté dans le bain de la Vendée? Définitivement d'ailleurs. C'est ça qui vous a amené à vous intéresser et à en faire votre vie? Ou
Alors,
ça remonte à d'autres événements, ce choix?
non, ça va vous sembler très curieux ce que je vais vous dire. En fait, lorsque Jean Meyer m'a proposé de travailler sur la Vendée, j'ai refusé. J'ai refusé pour deux raisons. La première, parce que j'étais Vendéen et que moi, j'avais baigné dans le sang des martyrs, parce que lorsqu'on se déplaçait à l'époque en Vendée, on était toujours accueillis par les vieilles gens qui nous racontaient ce qui s'était passé au sein de la famille, quand on marchait dans les voyettes, tiens, ton arrière-grand-père a été tué là, dans de telles conditions, et à la fin, on en a marre. Hein. Et la deuxième chose, je ne voyais pas l'intérêt de travailler sur cette question. Et Jean Meyer, en fait, devant cette situation, et notamment devant le discours officiel de l'université, qui expliquait qu'on n'avait jamais fait un travail sur la Vendée, pour deux raisons. La première, parce que ce n'était pas un sujet. Et deuxièmement, il n'y avait pas de document de première main. Et Jean Meyer, lorsqu'il m'a sollicité, il ne m'a pas sollicité pour écrire quelque chose sur la Vendée. Il m'a sollicité pour vérifier si ce que disait l'université, comme quoi il n'y avait pas de documentation et que ce n'était pas un sujet, était vrai. Et en fait, moi, je n'ai fait que répondre à cette question. Et je répète, je n'étais pas du tout intéressé par ce sujet. C'est en travaillant sur le carottage de la chapelle Basse-Mère que je me suis intéressé à cela. Et en plus, moi, j'ai profondément été marqué par les génocides commis par le communisme et le nazisme. J'étais marqué par cela pour deux raisons. La première, c'est que quand j'étais scolaire, j'étais interne dans un collège exceptionnel qui est Saint-Sauveur de Redon. Et parmi les professeurs, nous avions un certain nombre de survivants des camps qui nous racontaient ce qui s'était passé durant la Seconde Guerre mondiale et notamment nous commentaient les livres d'un journaliste qui était exceptionnel, Bernadac. Je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, c'est écrit,
Mais
c'est
bon,
ça.
il racontait les camps de la mort, etc. Et
Vous
ces
l'avez eu comme
gens-là,
professeur? Vous l'avez eu comme professeur?
Non, j'ai pas eu. Mais un de mes professeurs nous parlait
De
des écrits de
ces livres.
Bernadac. Bon,
Oui, ils
il
sont
nous les
affreux à lire, hein,
commentait.
vous savez.
Et comme lui-même avait vécu ça, c'était très concret.
Oui.
Bien. Et la deuxième chose, j'ai été profondément marqué par une aventure qui m'est arrivée aux États-Unis dans le cadre d'un échange d'étudiants. Une centaine d'étudiants français échangés contre une centaine d'étudiants américains. Je me suis retrouvé dans un hôtel juif orthodoxe. Quand vous êtes catholique, dans un hôtel juif orthodoxe, le jour du sabbat, vous êtes le roi du monde. Parce que, en fait, le juif ne peut rien faire. Et il délègue tout, allumer une pièce, etc., etc. Et en fait, si vous avez l'âme religieuse, et respectueux, eh bien, vous les aidez durant ce jour. Et un jour, j'ai entendu un hurlement près de la piscine de l'hôtel. Je me suis précipité et j'ai vu un vieillard qui pleurait en hurlant une douleur que je ne comprenais pas. Alors moi, j'ai fait les conférences Saint-Vincent-de-Paul. Et immédiatement, j'avais 22 ans, 23 ans, je me suis précipité en me mettant à genoux au pied du vieillard et j'ai pris la tête du vieillard que j'ai apposée sur mon épaule. Et j'ai commencé à dialoguer avec lui pour essayer de comprendre cette douleur. Et il me racontait que en faisant voir l'immatriculation qu'il avait eue dans un camp d'extermination à son petit-fils avait ri. Et pour lui, ça avait été affreux. Et donc, je l'ai tranquillisé, on a commencé à échanger, à parler, etc. Et là, ça a été un choc terrible pour moi, parce que au-delà de la douleur de cet ancien, je retrouvais la même douleur, les mêmes mots chez ma grand-mère maternelle vendéenne, avec une histoire qui était apparemment différente et qui ne s'inscrivait pas, bien entendu, dans le même siècle. Et lorsque je suis revenu chez ma grand-mère, je l'ai abordé d'une autre manière et je l'ai regardé d'une autre manière. Et je me suis rendu compte que sa souffrance était de même nature que celle du juif. Et l'année suivante, quand je suis retourné dans cet hôtel, j'ai enregistré ce juif pour comprendre, en fait, au-delà de ce qu'il avait vécu, la problématique de la transmission. Et j'ai étudié son vocabulaire qui était similaire à celui de ma grand-mère. Et donc, en fait, je me suis intéressé à la Vendée grâce à cette expérience, même si à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une politique d'extermination et d'anéantissement de la Vendée. Parce que lorsque Jean Meyer m'a demandé de travailler sur ce thème, il n'imaginait absolument pas que dans cette guerre civile, il y avait autre chose qu'une simple guerre civile. Et c'est grâce à l'étude que j'ai faite sur la chapelle Basse-Mer, qui fait partie d'un itinéraire du livre sur la guerre de Vendée, que j'ai découvert au sein de ce village qu'il y avait une tradition qui disait que l'armée française est arrivée les 10 et 17 mars 1794, qu'elle avait exterminé massivement la population, notamment les femmes, les enfants et les vieillards, et anéanti une partie des maisons. Grâce à la découverte absolument incroyable du registre paroissial clandestin rédigé par le recteur Pierre-Marie Robin et la découverte de la liste de l'habitat détruit aux archives départementales, que j'ai pu voir que à la chapelle Basse-Mer, la tradition populaire illustrait parfaitement l'écrit et qu'on retrouvait donc cet écrit dans la tradition populaire. Alors moi, j'ai extrapolé cette méthode par la suite. On m'a reproché d'avoir extrapolé les conclusions. Pas du tout. Moi, j'ai extrapolé la méthodologie. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir si effectivement ce que j'avais découvert à la chapelle Basse-Mer se retrouvait ailleurs. Et une fois qu'on a fait ce travail et qu'on découvre que ce qui s'est passé à la chapelle Basse-Mer, c'est à travers tout le vignoble, tout le bocage, tout le pays des Mauges et tout le pays maraîchin, là on se pose des questions toutes simples. Qui a fait quoi? Comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, quelle est la traçabilité de tout cela. Vous voyez, c'est une démarche extrêmement scientifique et non pas du tout ce que je lis parfois comme ça, un travail d'amateur, etc.
René Sécher, merci beaucoup pour ces explications sur l'origine de votre vocation, en quelque sorte, c'est particulièrement émouvant. et intéressant à entendre. Nous devons faire une petite pause, écouter un message de la radio, suivi d'une petite pause musicale quelques secondes. Nous allons écouter Catherine Garret qui chante La Vengée militaire, Souviens-toi. Et surtout, vous restez bien en ligne.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous reprenons cette émission après ce message et cette pause musicale autour de Catherine Garret qui chante la Vendée militaire. Souviens-toi, en effet, c'est bien le thème de cette émission et nous remercions particulièrement Renate Secher justement de nous aider à ne pas oublier, à nous souvenir de cette histoire extraordinaire, comme il le fait à travers les nombreux ouvrages, bandes dessinées et films qu'il a bâti autour du thème donc de la Vendée militaire. Et ce soir, nous évoquons plus particulièrement avec lui ce guide, cet itinéraire, la guerre de Vendée qu'il publie, qu'il a publié, qu'il va republier d'ailleurs dans 2 ans en édition augmentée, c'est ce qu'il nous a expliqué. Donc, aux éditions Talendier, guide Historia Talendier. Renal Secher, nous avons des messages auditeurs. Je voulais lire tout d'abord un auditeur qui vous remercie hein, pour vos propos, qui remercie que nous vous accueillons, car pour les Vendéens, vous êtes un homme remarquable, écrit-il. Nous le respectons énormément pour avoir fait connaître notre histoire marquée par ce génocide post-révolutionnaire. Voilà, il signe un Vendéen fier de l'histoire de sa terre. Et puis, l'autre message d'auditeur, c'est intéressant aussi de le lire, parce que ça fait référence à la première partie de cette émission de ce soir. Nous avons reçu François-Guillaume Laurin pour ces lieux qui ont fait la France. Il y a tout un chapitre très intéressant, d'ailleurs, consacré à la virée de Galerne et aux souvenirs, aux traces qu'il a découvertes, notamment dans la ville du Mans. Et on sait que à l'hôpital du Mans furent massacrés de nombreux blessés hein, de l'armée vendéenne. Et François-Guillaume Laurin indique qu'effectivement, les massacres avaient eu lieu des deux côtés. Alors cet auditeur n'est pas d'accord avec ça et il dit qu'il n'y a pas eu autant de massacres des deux côtés. Les républicains ont tué femmes et enfants, etc. Et justement, quelle est votre opinion?
Alors, j'entends souvent ce genre de remarques.
Oui.
Excusez-moi, c'est complètement absurde.
Bon.
je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens ne comprennent pas que ce qui s'est passé en Vendée est le fruit d'une décision d'État prise en conscience partagée par l'Assemblée nationale de l'époque, c'est-à-dire la Convention, d'exterminer un peuple, un groupement d'individus dans un espace circonscrit pour ce qu'ils sont, et qu'on a mis en place tout un système d'extermination qui passe par une planification avec quatre plans. Je peux vous donner les dates. 26 juillet pour le premier plan, le deuxième plan 9 novembre, le troisième plan 21-24 janvier 1994 et le quatrième plan 11 mai 1794. Et troisième chose, c'est que pour exterminer ces gens, on a mis en place des moyens que j'explique dans mes livres et notamment dans Vendée du génocide au mémoricide, qui passent par deux phases. La première phase, c'est la phase scientiste où on va essayer d'utiliser le gaz. Je rappelle que la France est à l'origine du gazage de masse et qu'à l'époque, on n'a pas trouvé la solution. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mise en œuvre et que le chimiste qui est à l'origine de ça est un député qui s'appelle Fourcroy, qui est honoré solennellement par la ville de Paris parce qu'il a sa statue dans une des niches de l'hôtel de ville, qu'il a son nom de rue, et qu'en fait, lorsque Lénine, Staline, Adolf Hitler mettent en œuvre les gaz, c'est qu'ils ont réussi, eux, là où Fourcroy avait échoué. Deuxième moyen, c'est les mines antipersonnelles. Troisième moyen, c'est l'empoisonnement à grande échelle, notamment à partir de l'arsenic. Et comme on échoue pour utiliser ces moyens scientistes, on va utiliser des moyens à grande échelle artisanaux. C'est pour ça que je parle de proto-industrie, en partant du principe qu'on brûle les gens, qu'on les égorge, etc. etc. Donc, en Vendée, ce n'est pas ce que les Bleus ont commis. Ce ne sont pas des massacres. On n'est pas dans une addition d'Ouradour sur Glane. Ce n'est pas lié à des dérapages locaux. Ce n'est pas lié à des initiatives individuelles. Et c'est lié à un système qui a été pensé au plus haut niveau de l'État par le comité de salut public et mis en œuvre par le comité de salut public avec comme seul objectif d'exterminer une population, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle était. Donc, on ne peut pas parler de massacre, mais d'un système. Je répète, on n'est pas dans une addition d'Ouradour sur Glane.
Renel Sécher, peut-être que François-Guillaume Morin faisait référence à ce qui s'était passé uniquement pendant la virée de Galerne et plus particulièrement au Mans. Peut-être que son propos ne concernait que cet épisode et non pas l'ensemble des guerres de Vendée.
Là aussi, ce qui s'est passé au Mans correspond au deuxième plan d'extermination. Mais tout ça, je l'explique dans mon livre oui. du Vendée du génocide au mémoricide. C'est-à-dire que le comité de salut public a décidé d'exterminer les Vendéens qui ont traversé la Loire et ils ont créé une méthodologie systématique pour leur élimination et qui va déboucher sur les grands massacres de Blain et de Savenay. Ce qui s'est passé au Mans fait partie du deuxième plan d'extermination.
Et en aucun cas, donc,
pas un massacre, le Mans. Oui.
En aucun cas, on peut les mettre en parallèle. Nous avons un auditeur qui vous pose cette question. Pourquoi Napoléon, en 1804, remplace Fontenelle-Comte par La Roche-sur-Yon ?
C'est une question anecdotique, mais c'est très important, effectivement, ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon. En fait, Napoléon veut créer une ville militaire, tout simplement. Hein. Alors, ce n'est pas cet épisode-là qui est important, c'est les conséquences de cet épisode. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Je constate, moi, que la Vendée a été, au niveau immobilier, indemnisée par Napoléon Ier. Il y a eu trois lois d'indemnisation. la loi d'août 1808 qui concerne la Vendée, la loi de 1811 et de 1812 qui concerne les départements des Deux-Sèvres et de Loire-Inférieure-Atlantique de nos jours. Ce que je ne m'expliquais pas, c'est effectivement comment Napoléon avait été amené à s'intéresser à la Vendée, puisque je savais que Napoléon avait refusé d'aller en Vendée, qu'il appelait la Grande Boucherie. Et en fait, j'ai reconstitué une histoire absolument invraisemblable que je vous raconte en quelques mots. En 1808, Napoléon est en train de perdre la guerre d'Espagne. Il ne comprend pas. Il se rend sur les lieux et en quelques semaines, ce qu'il a perdu, il le reconquiert, reconstitue ses effectifs, vainc les Espagnols, etc. Puis il remonte et à Bordeaux, il doit prendre la route pour Paris. Or, bizarrement, il change d'itinéraire et remonte sur Paris en passant par la Roche-sur-Yon. Alors, on connaît la scène, il est fou furieux parce qu'ils veulent faire de la Roche-sur-Yon une ville militaire et en fait, il ne découvre qu'une ville debout, comme il dit. Alors, la question est immédiatement, il fait indemniser la Vendée. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui l'avait amené en Vendée. Et j'ai découvert une histoire stupéfiante. En fait, celui qui est à l'origine du voyage de Napoléon en Vendée est le premier préfet des Deux-Sèvres qui s'appelle Dupin. Dupin, le baron Dupin, est un génie de la statistique. C'est lui qui va créer la statistique contemporaine administrative. Or, je m'étonne qu'un homme de cette envergure demande à être affecté comme préfet des Deux-Sèvres. Et il est à l'origine de l'indemnisation de la Vendée. Moi, je suis un homme de l'Ouest. Si tu veux comprendre l'homme, cherche la femme. Donc, je me suis dit, mais qui est sa femme? Et je vais découvrir que sa femme, la veuve Gélie, est la veuve de Danton. Et Danton a perdu la tête à cause d'elle. C'est-à-dire que Danton a une première femme, il a des enfants, sa femme meurt alors qu'il est en campagne en Hollande. Et lorsqu'il apprend le décès de sa femme, à bride abattue, il réplique à Paris, fait déterrer sa femme, c'est un énorme scandale, pour l'embrasser une dernière fois. Vous imaginez la scène. Et il rentre chez lui, et puis la petite gouvernante qui a 17 ans, et lui dit, bah, écoute, j'ai plus une femme, je t'épouse. Et elle lui dit non. Je ne peux pas vous épouser, vous êtes un brigand, un malhonnête, un malotru, et puis vous êtes contre les prêtres réfractaires. Alors évidemment, Danton est stupéfait, parce que lui tenir ce genre de discours, c'est immédiatement la guillotine. Mais elle est jolie, et il a besoin d'une femme pour gérer ses enfants. Puis il dit, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'épouser? Et elle lui dit deux choses. Un, on se marie religieusement avec un prêtre réfractaire. Deux, vous arrêtez de tromper votre femme et vous êtes sérieux comme père de famille. Eh bien, Danton va accepter. Donc, Danton va avoir un mariage religieux dans les sous-pentes des immeubles parisiens et il va respecter sa femme. Elle a 17 ans, il a 40 ans, il reste plus chez lui qu'à l'Assemblée et il va en perdre la tête. Sauf qu'elle elle va survivre. Et comme elle est profondément catholique, elle sait ce qui s'est passé en Vendée. Et c'est elle, sans aucun doute, qui a influencé son mari, qui lui-même a influencé Napoléon pour indemniser la Vendée. Donc c'est une histoire absolument incroyable et c'est grâce à la petite histoire qu'on comprend mieux la grande histoire.
Alors, revenons, si vous voulez bien, Arnel Secher, à votre guide, ce guide pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir, La guerre de Vendée, que vous publiez donc dans la collection Guide Historia Talendier. Je l'ai dit au début de cette émission, il y a deux parties principales à ce guide. Il y a un survol, mais qui est passionnant, parce que ça rend les choses très compréhensibles et très claires de cette guerre de Vendée, principalement de mars à décembre 1793, et après, vous proposez donc quatre itinéraires centrés autour de 4 de 4 grands chefs vendéens. Alors, il nous reste malheureusement que 15 minutes à peu près, un quart d'heure à passer à votre compagnie, donc nous n'allons pas rentrer dans le détail et de la guerre de Vendée, de cet itinéraire, mais néanmoins, j'aimerais bien que vous nous parliez de ces quatre itinéraires avec un choix que vous ferez, bien sûr, et de ce que vous, vous souhaitez expliquer, mettre en avant pour les auditeurs. Mais auparavant, j'ai quand même une question à poser sur cette première partie consacrée aux guerres de Vendée. Vous faites bien sûr toute l'histoire, vous expliquez les causes de cette guerre avec deux causes principales, enfin, il y a plusieurs causes, mais deux causes principales, la liberté religieuse et puis la mobilisation en masse pour la guerre aux frontières et ça déclenche la guerre en mars 1793. Et bien sûr, on a évoqué ce que disait Bonaparte des Vendéens, des soldats vendéens et de leur chef des géants. Et la question que je souhaitais vous poser, pourquoi cela se passe en Vendée et pas ailleurs?
Mes chers messieurs, ça se passe partout pareillement ailleurs. Vous avez des soulèvements partout. En fait, en mars 1793, ce sont 70% de la France qui se sont soulevés. Vous savez, on a créé une espèce de mythe sur l'acceptation de la Révolution. C'est totalement faux. Partout, on se soulève. Et quand je vais vous citer les lieux, vous me direz, ah oui, évidemment, quasiment toutes les grandes villes, que ce soit Marseille, Lyon, Bordeaux, Caen, etc., se sont soulevés sous des prétextes variés et divers. Des territoires immenses se sont soulevés. La Corse, la Savoie, qui ne faisait d'ailleurs pas partie de la France, au niveau du territoire à l'époque, mais qui était occupée. Le Berry, etc., la Bretagne, la Normandie, partout on s'insurge. Et ça fait partie du délire idéologique qui a été créé de toutes pièces par Michelet et repris par les auteurs républicains. Là, je suis en train de faire un reportage sur Lyon. Mais c'est invraisemblable ce qui s'est passé à Lyon. On peut parler d'ailleurs de cité-cide, parce qu'on a exterminé les Lyonnais parce qu'ils étaient Lyonnais. Si je vous parle de déportation des Basques, vous seriez stupéfait. Et pourtant, on a déporté les Basques parce qu'ils étaient Basques. On a détruit des villages entiers. Je pense à Bédouin. Bédouin, qui était un village dans le Var, qui a été rayé de la carte parce qu'ils avaient arraché l'arbre de la liberté. Allez, on a exterminé, décimé la population, on a brûlé les maisons, on a divisé le territoire en quatre, on a salé le territoire, etc. Mais partout, ça se passe pareillement. Alors,
Ce soulèvement, on ne le voit qu'en Vendée, avec des armées constituées.
Alors, justement, c'est ça cette particularité.
Pourquoi la spécificité de la Vendée ?
Alors, pourquoi la Vendée ? La Vendée, elle a, je répète, la Vendée n'est pas du tout un cas unique. Cela dit, la Vendée a deux spécificités qui vont la distinguer du reste des autres mouvements. Première spécificité, un immense territoire uni. Ce territoire va de Saint-Nazaire à Angers, grosso modo, d'Angers à Parthenay, de Parthenay au Sable-d'Olonne. 10 000 km carrés. Deuxièmement, une population importante, 815 000 habitants, alors que la population française est de 28 millions. Donc, la conjugaison de ces deux choses, c'est déjà une première spécificité. La deuxième chose, c'est que c'est un mouvement populaire spontané. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit, un mouvement aristocratique, noble, religieux, de nature fédéraliste, comme par exemple à Lyon. C'est le peuple, à la base, qui s'insurge, qui va se chercher des chefs, parce qu'il dit non au système totalitaire, oui pour la liberté, et le seul régime qui assure cette liberté fondamentale, notamment la liberté de conscience, c'est la monarchie. C'est clair, c'est simple. Bon. Et donc, territoire unique, population unique, spécificité de la nature du soulèvement unique. Immédiatement, la Convention, par l'intermédiaire de députés, de soldats, notamment d'un grand général qui s'appelle Besser, prennent conscience que si la Vendée réussit à réunir tout l'Ouest, excusez-moi, c'est la terminologie de l'époque, c'en est foutu de la République. Et donc, on va faire de la Vendée une double matrice. Premièrement, le lieu qu'il faut absolument exterminer pour faire un exemple. Et deuxièmement, un laboratoire, c'est-à-dire qu'on va créer des méthodes, une planification pour anéantir la population. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et pour cause, qu'un peuple souverain, en conscience partagée, décide de sang-froid d'exterminer une partie de lui-même, et je répète toujours la même phrase, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et après la Vendée, il y aurait eu d'autres territoires qui auraient été rayés de la carte, comme la Bretagne, la Corse, etc. Et c'est parce que la Vendée, ça a échoué, que le reste de la France n'a pas été décimé. On avait prévu, Robespierre et toutes les ses sbires avaient prévu que s'il fallait exterminer 70% de la population française, il fallait le faire, au nom justement de l'idéologie, au nom de la Révolution. Vous voyez, donc la Vendée, c'est une double matrice, et d'ailleurs, c'est à ce titre qu'elle sera prise comme exemple, aussi bien par Talat Pacha que par Lénine, Staline, etc.
Alors nous avons d'autres messages d'auditeurs. Monsieur Secher écrit, cet auditeur, c'est très émouvant de vous écouter, d'autant plus que cela a touché votre famille. Une question, dites-nous si la chapelle en forêt de Vézin, dédiée aux martyrs vendéens, était profanée.
Absolument.
Oui.
Alors là, c'est un phénomène nouveau, mais qui n'est pas propre à la Vendée. Ça fait partie de tout un courant lié au wokisme, à une certaine gauche, etc., qui est de tuer la mémoire, de souiller. Vous savez, lorsqu'on voit, par exemple, qu'à la suite de la visite d'un collège dans le mausolée des rois Saint-Denis, qu'on a mis un bonnet phrygien sur, je crois, Charles Martel, voilà, c'est invraisemblable tout ça, où on brûle des églises, on saccage les lieux de mémoire. Alors là, la forêt de Vezin, on a été très très loin, puisqu'on a déterré les morts et qu'on les a souillés. Je peux prendre l'exemple de la chapelle Basse-Mer, où on a été obligé de mettre des caméras dans le cimetière parce que certains venaient ouvrir les tombes pour jouer avec les cadavres récemment enterrés. On est dans un monde stupéfiant. Bon, donc ce n'est pas propre à la Vendée, on retrouve ça un peu partout. Ça blesse plus parce que ça correspond à une certaine mémoire. En fait, c'est un double meurtre, c'est-à-dire qu'on a tué les gens à l'époque et qu'on les retue, mais c'est un acte de mémoricide. J'ai écrit un article sur le wokisme pour le Salon Belge il y a quelques semaines où j'explique tout ça.
Un auditeur vous demande si le ministre Fouché a été un personnage de la guerre et du génocide en Vendée.
Ah, bonne question. alors en fait, Fouché, il est né en Vendée militaire. Il est né au Pèlerin. Et le recteur de la chapelle Basse-Mer, le recteur Pierre-Marie Robin, qui est natif de la chapelle Basse-Mer, était le curé du Pèlerin. Donc il a parfaitement connu la famille Fouché. Alors Fouché n'a pas participé directement à l'extermination de la Vendée. Il a participé, lui, activement, à l'extermination et à la destruction de Lyon.
Renal Sécher, malheureusement, il nous reste un peu plus de 4 minutes à passer en votre compagnie pour évoquer les itinéraires que vous proposez, les 4 itinéraires que vous proposez dans cet ouvrage, ce guide de la guerre de Vendée que vous publiez aux éditions Historia Talendier. Alors 4 minutes, c'est très court pour évoquer 4 itinéraires autour des 4 grands chefs militaires. Peut-être pouvez-vous citer quelques lieux qui vous émeuvent particulièrement et que vous mettez en avant dans ces itinéraires ?
Alors en fait, j'ai fait ces 4 itinéraires pour permettre aux touristes de se faire une idée sur la Vendée en 4 jours. En fait, chaque itinéraire correspond à une journée. Alors évidemment, c'est très intensif. Or, je parlais simplement du premier itinéraire, l'itinéraire Catelino, qui part du Mont-Glône, c'est-à-dire de Saint-Florent-le-Vieil, qui passe par le Pin-en-Mauges, puis qui arrive au Lourbeau-Trot, à la chapelle Basse-Mer. Voilà, ça c'est tout un itinéraire en fait qui part de la rive gauche de la Loire pour longer à l'intérieur de terre ces terres et revenir dans cette rive gauche. Alors, je vais parler de 2 lieux à visiter. Le premier lieu, évidemment, c'est la chapelle Basse-Mer, où là, on a réalisé un immense mémorial grâce à 2000 jeunes qui, pendant 33 ans, sont venus passer leur mois de vacances et qui ont restauré une chapelle qui avait été détruite par les colonnes infernales le 10 et 17 mars 1794, avec en son sein 74 habitants locaux, et qui avait été maladroitement restauré, que nous avons entièrement démonté et restauré. Et à côté, on a fait un immense mémorial. C'est le lieu à voir maintenant en Vendée militaire. Et à l'intérieur de cette immensité, vous avez la salle des martyrs avec la liste des gens exterminés à la chapelle Basse-Mer et l'habitat détruit, et une salle à l'intérieur de laquelle vous avez une incroyable fresque de 70 mètres de long sur 2 mètres de haut, qui raconte toute l'histoire de la Vendée militaire avec des sculptures faites notamment par Daphné du Barry, la grande sculpteur mondialement connue, qui nous a fait 2 sculptures, une sur les noyades de Nantes et une relative au recteur Pierre-Marie Robin. Rien qu'à la chapelle Basse-Mer, vous passez une journée pour visiter ces sites. Puis après, vous pouvez errer à travers les Mauges, aller au Pin-en-Mauges, et au Pin-en-Mauges, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous visitez l'église des Pin-en-Mauges, à l'intérieur de laquelle vous avez le mausolée de Catelino, plus les vitraux, et puis à l'extérieur la statue, puis vous allez au Mont-Glône, c'est un lieu magnifique qui surplombe la Loire, et là vous avez l'abbatiale. Alors l'abbatiale, vous avez le fameux tombeau de Bonchamp, tombeau fait par un grand sculpteur qui l'a fait pour remercier Bonchamp d'avoir gracié son père, qui était un des soldats qui a été libéré lors de l'événement que je vous ai raconté. Et David Danger est un homme vraiment extraordinaire. Et après, vous montez autour de l'autel, et là, vous avez des vitraux exceptionnels. Vous descendez dans la crypte, et là, vous avez des objets incroyables. Et puis, vous allez sur l'esplanade, vous voyez en hauteur la Loire, vous dominez en fait la traversée de la Loire, et si vous avez de l'imagination, vous voyez ces 80 000 Vendéens qui ont traversé la Loire en 2 jours avec des barques, des yoles de circonstances, et puis vous verrez bien entendu la fameuse colonne.
Eh bien, Renal Sécher, merci beaucoup pour ce temps passé en votre compagnie. Merci d'être venu en direct nous raconter ces guerres de Vendée telles que vous le faites dans ce merveilleux guide, la guerre de Vendée, au guide Historia Talendier. Vous proposez 4 itinéraires. Vous en avez effleuré le premier avec l'itinéraire Catelino. Merci beaucoup à vous. Vous reviendrez. Merci à Laurent au Standard qui a pris vos messages, chers auditeurs. Merci à Stéphane, à la technique qui a réalisé cette émission. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 15 février 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.